soir, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4. Nous lirons du verset 11 au verset 16. On a déjà pas mal travaillé ensemble sur les versets 11 et 12. On va les reprendre pour avoir la pensée de Paul dans son entier, mais c'est surtout 13 à 16 que nous retiendrons ce soir. Éphésiens 4, 11. Et donc Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais comme professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Car c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Voilà, nous arrivons ce soir au bout de cette série de messages que j'ai intitulé « À chacun un don, à chacun une place ». Nous avons ensemble identifié trois catégories de dons, de grâces que le Seigneur accorde à son Église. Parmi les plus connus, les dons spirituels. Nous avons parlé des dons de ministère qui sont mentionnés ici dans Éphésiens 4.11. Et puis la semaine dernière, nous avons parlé de ces dons que j'ai qualifiés de dons d'intendance dans l'Épître de Paul aux Romains au chapitre 12. Donc ce soir, on va essayer de faire une espèce de synthèse et de replacer le fonctionnement de ces dons au sein de la vie de l'Église et comprendre mais à quoi servent, comment fonctionnent tous ces dons un peu et dans quel but dans notre assemblée et dans les assemblées au sens large. Vous le savez, la Bible compare l'Église de Jésus à un corps, c'est un enseignement qui revient très fréquemment chez l'apôtre Paul, un corps dans lequel chaque disciple est appelé à trouver place en vue de participer à la vie et au développement de ce corps, mais aussi à l'accomplissement de la mission que Christ nous a confiée d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Il y a donc une place dans une église locale pour chacun et pour tous. Peu importe la taille de l'Église, la forme de l'Église, la dénomination de l'Église, on ne va pas s'arrêter sur ça. Ce qui est dommage, c'est quand certains refusent de s'investir dans cette dimension de la vie chrétienne et restent enfermés sur eux-mêmes. Parce que participer à une Église, ce n'est pas simplement le fait d'avoir une carte de membre, ça c'est juste anecdotique, c'est pour l'administration. Mais avoir une place dans l'Église, c'est avoir un engagement concret dans le corps de Christ. Et il faut dire qu'il y a aujourd'hui suffisamment d'assemblées variées, de formes différentes, d'expressions différentes autour de nous pour que chacun puisse trouver une place dans laquelle il pourra s'enraciner. En tout cas, l'Église est nécessaire et elle fait partie du plan de Dieu pour la croissance de ses membres, la croissance des disciples. Et c'est un lieu où nous apprenons, c'est un lieu où nous grandissons, c'est parfois un lieu où bien aussi nous sommes transformés au contact des uns des autres, mais en tout cas, elle est au centre du plan de Dieu pour son royaume et pour l'Évangile. Alors l'Église est donc un corps, et ce corps est rendu vivant. Il est rendu vivant par la présence du Saint-Esprit, dont il doit être rempli. Évidemment, sans la présence du Saint-Esprit, ce n'est plus que de la religion insipide et morte. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Remplie du Saint-Esprit, l'Église est vivante. Dès lors, parce qu'elle est vivante, elle croit, grandit, et elle doit se développer. Parce qu'elle est vivante, il faut aussi prendre soin de sa bonne santé. L'Église est un corps qui est appelé aussi à remplir une mission. Parce que l'Église est le moyen par lequel le Seigneur manifeste sa sagesse, jusque parmi les puissances célestes, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 10. Le Seigneur manifeste sa sagesse à travers l'Église. Et l'Église est le témoin privilégié de la grâce de Dieu manifestée parmi les hommes. Alors venons donc d'identifier trois champs d'une grande importance aux yeux de Dieu concernant l'Église. Premièrement, sa croissance et son développement. Deuxièmement, sa bonne santé. Troisièmement, sa mission. Je le redis, croissance, développement, bonne santé et mission. Voilà trois champs très importants. Et concernant chacun de ces champs, le Seigneur ne laisse pas son Église livrée à ses propres forces, mais il lui accorde des dons distribués à ses disciples, qui sont autant d'outils pour assurer sa croissance, sa bonne santé et sa mission. Ce n'est pas par nos forces, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit dont nous sommes équipés à travers les dons qu'il nous accorde. Il y a donc des dons pour la croissance de l'Église, des dons pour prendre soin de l'Église et des dons pour permettre à l'Église d'accomplir sa mission. Ces dons sont différents dans leur nature, leur fonctionnement, leur étendue, leur but, mais ils procèdent tous de la volonté suprême du Seigneur de bénir son Église. Ainsi, la volonté de Jésus et que l'Église soit semblable à un corps bien formé, bien assemblé, en bonne santé et prêt à se mettre à l'œuvre. Alors, ce soir, j'aimerais donc faire une synthèse et j'aimerais partager avec vous maintenant une vue d'ensemble du projet de Dieu concernant les dons spirituels en vue de l'édification de l'Église. Premièrement, il y a les dons de construction, les dons de supervision. Parce qu'avant de parler du corps, il faut parler de sa construction, même si c'est un peu bizarre de parler de la construction, parce qu'il s'agit d'un corps, parce que c'est un corps vivant en plus. Ces dons-là sont ce qu'on appelle les ministères dons, nous les avons relus ce soir dans Éphésiens 4.11. Et dans sa volonté, Dieu a donc mis à part des hommes, pris de l'Église, des hommes qu'il a qualifiés par des dons puissants, afin de construire et de diriger son Église. Et la mission de ces hommes donnés à l'Église, avec un grand E, est double. Elle consiste d'une part à instruire, à préparer, à équiper chaque disciple. Et c'est la notion de perfectionnement. Nous le voyons dans Éphésiens 4.12, une notion que nous avons déjà étudiée. Un perfectionnement, et là j'en viens au verset 13, jusqu'à un niveau de maturité qui permettra à ses membres d'être opérationnel dans le don que Dieu lui accorde. Le Seigneur ne nous traite pas comme des petits enfants. Il veut nous faire grandir. C'est dur de voir grandir ses enfants. C'est très dur pour moi de voir grandir mon fils. Parce que bientôt, ce sera difficile de pouvoir le prendre dans les bras, lui faire des câlins et tout. Mais malgré tout, je me réjouis de le voir grandir. Parce que je m'inquiéterais s'il ne grandissait pas. Ils sont allés voir le médecin avec mon épouse il y a quelques jours et il était content parce qu'il avait encore gagné quelques centimètres. Et il savait que bientôt, il aurait la taille pour faire Space Mountain à Disney. Donc, il veut grandir. Et le Seigneur veut que ses disciples grandissent. Il ne veut pas que nous restions des espèces de petits agneaux. Il veut que nous soyons des serviteurs capables, des gens capables dans sa maison. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce verset 13. Il a donné donc des ministères dons, depuis les apôtres jusqu'au docteur, donc pour le perfectionnement des saints, pour qu'ils puissent accomplir leur ministère, l'œuvre du ministère, pour qu'ainsi l'Église puisse grandir, l'édification du corps de Christ. Et ces ministères dons doivent travailler avec un but, celui de tous nous amener à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Il y a un but. depuis l'apôtre jusqu'au docteur, ils poursuivent le même but tous ensemble. Prendre un homme, une femme que Dieu a destiné à la vie éternelle et l'amener depuis zéro de connaissance de Dieu jusqu'à devenir un serviteur autonome rempli du Saint-Esprit et efficace dans l'œuvre du royaume de Dieu. Et d'autre part, première mission donc préparée, équipée, chaque disciple, et d'autre part, il ne faut pas l'oublier, il s'agit aussi d'assembler et coordonner l'ensemble des disciples dans une vision commune. Là, c'est une question de leadership, savoir où l'on va et emmener les uns les autres dans cette vision, dans ce projet. Et Paul parle justement de ce fait d'un corps qui est assemblé. Je ne vois plus mon verset, excusez-moi, ça a sauté de devant mes yeux. Un corps qui est organisé. Oui, voilà, le verset 16, il est là. Il parle de, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage. Et lorsque ce corps est ainsi construit, eh bien c'est là qu'il va grandir. C'est là qu'il va croître. C'est comme ça qu'il va pouvoir accomplir sa mission. La finalité, donc, de l'appel et de la vocation de ces ministères dons, c'est de rendre l'Église capable de se mettre en œuvre pour accomplir efficacement sa mission. Réduire l'Église à une vision d'un pasteur berger qui conduit un troupeau, c'est réducteur. C'est très réducteur. Mais pourtant, c'est l'idée la plus généralisée. Et des fois, je me demande si ça ne convient pas aux chrétiens, d'une part, de se dire « on est un troupeau, tant mieux, on suit le berger », et d'autre part, des fois, aux pasteurs bergers, de se dire « bon, de toute façon, c'est un troupeau, ce sont des moutons, allons-y ». Non, non, dans cette idée, oui, le pasteur berger qui a de l'amour pour ses brebis, comme Jésus l'en a, mais c'est qu'une partie de la vision. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est une église de témoins, remplis du Saint-Esprit, d'hommes et de femmes qui sont capables de proclamer sa parole, de remplir la mission qu'il leur confie selon l'appel qu'il leur confie. Et ça, c'est la mission de ceux qui prêchent la parole. À chacun et à tous. Ces hommes sont donnés à l'Église, oui, mais ils sont donnés comme des ouvriers. Alors, je prends une autre image du monde moderne, comme des, on va dire, des entraîneurs, des coachs sportifs. C'est-à-dire qu'ils agissent depuis l'extérieur. Ils façonnent l'Église, ils construisent, ils dirigent. Comme si, finalement, il y avait une espèce d'échafaudage sur lequel ces ministères travaillent pour bâtir l'Église de Jésus-Christ. Donc, voilà les premiers dons. Rappelez, nous avons dit ça part depuis le moment où on pose les fondations de l'Église avec les apôtres, jusqu'au fait d'amener la consolidation de l'œuvre avec les docteurs. Il y a tout un travail qui se fait comme ça. Ensuite, nous trouvons les dons d'entretien ou les dons de soins de l'Église et de ses membres. Quels sont ces dons? Eh bien, ce sont les dons spirituels. Ce que Paul appelle dans 1 Corinthiens 12, les spirituels. Parce que l'Église est un corps vivant, il faut en prendre soin, la préserver des infections, guérir ses blessures, entretenir sa santé. Et c'est pour ça que Dieu, par le Saint-Esprit, distribue des dons spirituels, notamment la prophétie, dont le but est l'édification, l'exhortation, la consolation. Et elle contribue ainsi à renouveler la bonne santé de chacun et de tous dans l'Église. Ces dons sont exercés par les membres de l'Église locale qui ainsi prennent soin les uns des autres. Et donc un don spirituel n'a pas pour but de couper les oreilles du voisin. Ce sont des dons de soin. On soigne, on manifeste la grâce de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il doit être toujours conduit et pétri d'amour. Même si parfois il faut dire des choses un peu plus difficiles. Donc contrairement au ministère don de la parole, qui agissent depuis l'extérieur de l'Église, on va le dire ainsi, les dons spirituels viennent de l'intérieur de l'Église. Ils sont manifestés à l'intérieur du corps. Vous savez, tout comme dans notre corps, il y a des fonctions comme les anticorps ou d'autres choses. Il y a des mécanismes biologiques qui réagissent, qui se mettent en œuvre dès qu'il y a une agression. Eh bien, c'est un peu ça. Les dons spirituels servent à cela. Et ils sont manifestés par les membres du corps pour guérir le corps ou d'autres membres du corps. Ainsi, le Saint-Esprit parle aux membres de l'Église par les membres de l'Église. Ainsi, le Saint-Esprit soigne l'Église et soigne les membres de l'Église par les membres de l'Église. Enfin, il y a les dons d'intendance. Romains chapitre 12, que nous avons étudié la semaine dernière. Tous les membres du corps ont reçu au moins un don d'intendance de la part du Seigneur, 1 Pierre chapitre 4, verset 10, et ils sont appelés à les mettre au service des autres. Ces dons leur permettent de participer efficacement au fonctionnement du corps. Un membre du corps va participer non seulement à la bonne santé du corps, mais au bon fonctionnement du corps, selon sa spécificité, selon sa place et donc sa fonction dans le corps. Et nous avons chacun cette responsabilité aux yeux de Dieu, selon ce que lui nous confie. Et ces dons, comme les dons spirituels, sont des dons qui viennent du corps. Ils ne viennent pas de l'extérieur. Ils viennent du corps, des membres du corps lui-même. Et ils permettent au corps de se mettre en action et de remplir sa mission. Maintenant, au-delà des dons en eux-mêmes, il nous faut parler des membres du corps. Car ces dons ne se manifestent que parce qu'il y a des hommes et des femmes pour les exercer. L'Église de Jésus-Christ est donc souvent comparée à un corps avec des membres. Et ces membres sont différents les uns des autres dans leur forme extérieure, mais ils possèdent tous en eux le même ADN spirituel, celui de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et dans notre corps, il n'y a qu'un ADN, il n'y a qu'une vie. Et tous nos organes, tous nos muscles, tous nos cartilages, tous nos os sont animés du même ADN. Ils sont différents aussi dans leurs fonctions. C'est ce que Paul dit dans Corinthiens 12, hein, certains sont œil, d'autres sont pieds, et chacun va faire selon ce qu'il est appelé. L'œil ne va pas commencer à vouloir jouer le rôle du pied, ainsi de suite. Ils sont donc tous différents dans leurs fonctions, mais ils sont tous animés de la même puissance. Le Saint-Esprit qui remplit tout le corps, Éphésiens 1, 21. Il y a la même vie en eux, même ADN et la même puissance. Le Saint-Esprit qui passe au milieu d'eux. Mes frères et sœurs, nous sommes tous différents, gloire à Dieu. Que l'Église serait triste si on était tous pareils. Et nous sommes tous différents. Ce qui n'empêche que nous sommes tous membres du corps de Christ, et particulièrement de cette église locale. Mais en étant membres du corps de Christ, nous ne sommes pas simplement attachés à Christ, même si c'est la première chose qui compte. Nous sommes aussi attachés les uns aux autres. C'est pour ça que par deux fois, Paul dit que nous sommes membres les uns des autres. Évidemment, nous ne sommes pas tous liés les uns aux autres, et chacun avec tout le monde. Mais dans le corps, tous les membres et tous les organes ne sont pas reliés tous les uns aux autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Sinon, on n'en finirait plus. Mais il se trouve que parce que je suis relié d'une manière particulière avec tel frère ou telle sœur, parce que nous servons, parce que nous participons à un groupe de maison ou pour des affinités amicales, je suis avec lui. Oui, mais il se trouve que lui est aussi, pour d'autres raisons, en liaison avec un autre frère que je ne connais pas bien. Mais à travers lui, eh bien, j'ai quand même cette relation. Mais c'est ainsi que se développe le corps de Christ. Alors évidemment, dans des petites communautés, il est plus facile de développer ce genre de relation. On va dire, alors c'est ce qu'il faut développer. Certes, mais de toute façon, on sait qu'il y a une limite au nombre de personnes qu'on peut connaître. On va arriver à connaître quoi, une quarantaine, cinquantaine de personnes. Et dans l'Église, je vais vous dire, même si l'Église a bien grandi, nous ne connaissons plus tout, nous ne connaissons pas forcément tous bien les uns les autres, mais si nous prenons le temps, nous pouvons développer ce réseau de relations d'une quarantaine, cinquantaine de personnes avec qui nous sommes reliés et qui vont combler parfaitement ce besoin que nous avons d'être en liaison les uns avec les autres. Et puis, ainsi, au fur et à mesure, nous serons tous en liaison, même si nous sommes maintenant plusieurs centaines par la grâce du Seigneur. Nous sommes aussi tous différents, mais nous sommes tous rendus capables par le Saint-Esprit d'accomplir une tâche particulière pour le bon fonctionnement du corps. Rendus capables par le Saint-Esprit d'accomplir quelque chose. Le problème n'est pas savoir si nous en faisons plus ou moins, ou si c'est plus spectaculaire, plus visible. Le fait est d'accomplir ce que le Seigneur nous a qualifié, la chose pour laquelle il nous a qualifié. Alors le corps bien formé, le corps en bonne santé, permet à l'homme d'accomplir de nombreuses tâches. On sait qu'un corps fatigué, malade, handicapé, ne peut pas permettre à l'homme d'exécuter tout ce qu'il voudrait entreprendre. Mais aussi, un corps qui n'est pas développé dans certaines fonctions comme il devrait l'être, empêchera une personne aussi d'entreprendre certaines actions. On a vu les photos de Didier monter le Mont Ventoux. Bon, je lui laisse monter le Mont Ventoux, il s'est bien entraîné pour ça. Et heureusement qu'il s'est entraîné, qu'il a remis de la tonicité dans les muscles et tout, parce que sinon il serait resté en bas. Donc, mais quand le corps est bien formé, quand le corps est en bonne santé, il peut accomplir de nombreuses tâches. Depuis s'asseoir, jusqu'à marcher, ou même entreprendre des œuvres fastidieuses qui requièrent un grand niveau d'expertise. Il y a des travaux manuels qui sont impressionnants quand on voit ce que certains sont capables de faire, d'autres qui sont capables de produire des ouvrages artistiques, d'autres des réflexions intellectuelles, enfin chacun selon ses capacités. Cependant, aucune tâche que cet homme entreprend ne pourra s'accomplir sans la mise en fonction de multiples capacités et membres du corps. Pensons simplement au fait de marcher. Marcher nécessite la mise en œuvre de beaucoup de nos membres. Ce n'est pas simplement la question du pied. Il y a le genou qui rentre aussi en fonctionnement, les hanches, les bras qui vont servir de balancier. Donc on comprend que faire un pas est une tâche qui mobilise de nombreux membres du corps, chacun avec une action particulière, et aussi nécessite la coordination de ses membres. Il faut que le genou parte au moment où il faut, et le pied aussi aille dans la bonne direction. Enfin, on n'y prête plus attention, mais quand on y réfléchit, c'est quand même des actions complexes et qui doivent être coordonnées. Aussi, quand bien même chaque membre serait en pleine santé et prêt à fonctionner selon sa part, selon ce qu'il est capable, s'il n'y a pas de lien qui les unisse, tout cela ne servirait à rien. Si le pied ne se soucie pas que le genou a bien fait sa flexion, ou tout ce que vous voulez, si ma main veut bouger mais que le coude ne veut pas bouger à ce moment-là, enfin, vous imaginez tout ça. Heureusement qu'il y a des liens. Ce qui veut dire qu'il y a une exigence d'unité, de vision, de coordination et de liaison Et là, nous revenons au corps spirituel de l'Église. On peut avoir des membres en bonne santé. On peut avoir des membres capables de servir. Mais s'il n'y a rien qui les unit les uns aux autres, s'il n'y a rien pour les coordonner, et si chacun commence à dire, ben moi je vais faire ma part, moi je vais là, moi je fais ci, toi tu fais ce que tu veux, est-ce un corps ? Il y a une exigence donc d'unité de vision. Au-delà de nos capacités personnelles, parce que nous sommes membres d'un corps, nous participons à un même but, c'est-à-dire aller dans une même direction. Il y a une unité de coordination. Il faut être dans le bon tempo. Paul écrit aux Philippiens qu'il nous faut avancer tous d'un même pas. Ce n'est pas le fait de courir qui compte, mais c'est celui d'avancer ensemble. Jacob dit, on va marcher au pas du petit troupeau. Parce que si, il vaut mieux marcher ensemble, même au petit pas, que de courir de manière désordonnée. Parce qu'à vouloir se précipiter, à vouloir courir dans tous les sens, on risque la chute. Et donc, il vaut mieux avancer pas après pas, dans le bon tempo. Unité dans les liaisons. Il est impératif qu'il y ait des mécanismes spirituels de liaison des membres entre eux. Vous pouvez avoir de très bons bras pour travailler, mais si vos tendons et vos cartilages souffrent, vous ne pouvez rien faire. Il y en a qui souffrent de problèmes de tendons ou de cartilage, là. Ça vous est déjà arrivé. Et quand on commence à devoir tirer sur le bras en arrière pour attraper, alors là, ça devient terrible au niveau de l'épaule. Vous avez déjà souffert de ça ? Le bras fonctionne bien, la main fonctionne bien, le coude fonctionne bien, vous avez tous les muscles qu'il faut, les os sont en pleine forme, mais si au niveau des cartilages et tout ça, des tendons, ça ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas bouger votre bras. Eh bien, c'est pareil dans l'Église de Jésus-Christ. Paul insiste sur l'importance de ces jointures, des jointures du corps. Et il nous presse, Colossiens 2:19, il nous presse de rester attachés au chef, c'est-à-dire Christ, dont tout le corps, assisté, solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu lui donne. Solidement assemblé par des jointures et des liens. Dans sa grâce, certains membres du corps sont comme des muscles permettant de libérer une énergie particulière pour accomplir certaines tâches. Mais d'autres occupent des fonctions de liaison, de coordination au sein du corps. Il facilite le travail. Ce sont des gens d'encouragement, de consolation, et ils sont là, précieux, au point charnière de l'Assemblée. Mais bien plus que des fonctions, ces jointures et ces liens s'appellent par-dessus tout l'amour. L'amour. Paul ne l'appelle-t-il pas la voie par excellence pour ceux qui cherchent à exercer les dons ? L'amour. Dans les Colossiens, ne dit-il pas aussi que l'amour, c'est le lien suprême ? Sans amour, nous ne sommes rien. Et quand bien même nous aurions l'exercice de tous les dons parmi nous et la bonne santé, nous ne serions qu'un corps sans intérêt. Parce qu'incapable d'agir. Parce que qu'est-ce qui me permet de travailler avec mon frère, avec ma sœur? Qu'est-ce qui nous permet à tous de demeurer ensemble, d'œuvrer ensemble, sinon l'amour de Jésus-Christ qui nous unit les uns aux autres? Voilà le lien. Voilà le lien. Voilà la jointure. Voilà ce qui nous permettra d'accomplir les fonctions que Christ nous attribue. Quand le corps est bien assemblé, bien coordonné, bien ajusté, bien formé, alors il peut se mettre à l'œuvre d'une manière efficace. Et je suis convaincu, c'est ce à quoi Jésus pensait lorsqu'il disait « Je bâtirai mon Église ». Une Église édifiée, une Église bien assemblés, en bonne santé. Voilà le corps de Christ qui plaît à notre Dieu. Une église où chacun, attaché à la tête et abreuvé par le même esprit, prend soin l'un de l'autre. Où chacun grandit en maturité, en force et en grâce selon ses besoins. Où chacun trouve une place, une fonction, selon les dons que le Saint-Esprit lui accorde. Et une telle église est prête pour aller de l'avant et accomplir de grandes choses. Et il est certain que si nous travaillons à rendre le corps de l'église toujours plus opérationnel dans ce sens-là, Dieu nous accordera une plus grande croissance encore. La croissance de l'église dans le plan de Jésus-Christ ne peut être simplement le fait de quelques super ministères d'évangélistes. Mais ça, c'est... Qu'est-ce que je vais dire? Quel mot dois-je employer? Une impasse, un raccourci que nous faisons trop souvent en nous disant « L'Église va grandir à cause de cet homme, de son ministère, de ce que Dieu lui a donné. » Mais ça, ce n'est pas le plan du Seigneur. L'Église qui grandit, c'est une Église en bonne santé, une Église bien édifiée, une Église qui est perfectionnée, qui est dirigée, qui est unie dans l'amour, dans une vision où chacun exerce les dons que le Seigneur lui accorde. Voilà ce que Dieu veut. Il ne m'intéresse pas du tout que cette assemblée grandisse à cause des ministères dons que Dieu lui donne. Nous avons notre part. Nous devons faire notre boulot. Mais notre travail consiste à perfectionner cette Église. À vous perfectionner. Pour que tout ce que Dieu vous donne assure la future croissance de l'Assemblée, son développement, sa mise en œuvre. Je le redisais la semaine dernière, mais pour moi, c'était une telle révélation. Oui, avec des super apôtres, des super évangélistes, évidemment, l'œuvre va grandir. Mais on le voit dans les premiers chapitres des Actes, quand Pierre prêche, les foules se convertissent. Ouais, gloire à Dieu. Mais Luc emploie toujours une croissance qualifié par des verbes d'addition. Voilà. Quand Pierre prêchait, alors Dieu ajoutait. Mais à partir du moment où l'Église a commencé à rentrer dans sa vocation, son appel, son ministère, en commençant à avoir des diacres, des serviteurs qui se sont levés, qui ont exercé le ministère, on est passé d'une croissance par addition à une croissance par multiplication. Par multiplication. Ça, c'est le corps de Christ. C'est le véritable corps de Christ. Et c'est ce que je désire, c'est ce que je me réjouis de voir des frères et sœurs maintenant se lever et être capables, parce qu'ils ont atteint cette maturité. Ce qui veut dire que quelque part dans ma pensée, il y a un moment où, je l'ai déjà exprimé, mais soit je veux le dire comme ça, c'est comme si vis-à-vis de certaines personnes, on va retirer les échafaudages. Et on n'est plus là pour avoir une relation de... Paul l'exprime par moments de père à fils, mais de frère à frère, de frère à sœur. Il l'écrit par exemple dans l'épître à Philémon. Philémon est un ancien, mais Paul lui dit, j'aurais pu te parler, en gros, j'aurais pu t'écrire au nom de l'autorité, et au nom de mon autorité apostolique, j'aurais pu te demander de faire ça. Mais il dit, maintenant, non, c'est de préférence au nom de l'amour. Parce que toi, Philémon, maintenant, tu es un ancien, tu es un homme de Dieu. Et donc, je te parle comme ça, d'égal à égal. Et il l'accompagne dans sa réflexion. Et ça, c'est ce que... Le but que, finalement, tout prédicateur, tout homme qui a reçu un ministère d'on recherche, c'est de voir des Philémon, des Priscilles, des Aquilas, et tous ceux qu'on a déjà mentionnés tant et tant de fois, se lever dans l'Église. Ça, c'est l'aboutissement du ministère. Ça, c'est vraiment le fruit que nous recherchons. Alors, je me réjouis des progrès spirituels de notre assemblée. Je me réjouis de l'amour, de la joie, de la paix qui se manifeste au milieu de nous. D'une manière, bien sûr, générale, on pourra toujours trouver parfois des défauts, c'est certain. Je me réjouis d'une des qualités fortes de cette Église, c'est sa capacité à accueillir et à intégrer. Et ça, c'est très, très important. Je me réjouis aussi du désir de beaucoup de grandir dans les choses de Dieu, de l'Esprit, la volonté d'étudier sa parole, les doctrines, de se nourrir, de passer à de la viande. Et je me réjouis aussi de voir se lever de nombreux frères et sœurs avec des appels de Dieu, des dons à développer. Plusieurs s'engagent maintenant dans l'accomplissement de leur appel. Pourquoi ? Parce qu'ils ont atteint la maturité, la force qui le leur permet. Et nous voulons les encourager, les accompagner. Même si, comme je disais la semaine dernière, ça nous pose parfois bien des soucis parce qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Mais c'est le problème du Seigneur. Et en tout cas, je ne veux pas en avoir peur. Je me réjouis donc de cette œuvre et j'en rends grâce à Dieu. Certes, il y a encore à faire, il y aura toujours à faire, oui. Néanmoins, au point où nous en sommes, nous formons une Église en bonne santé et prête à œuvrer encore plus loin pour le Seigneur. Et mon désir reste toujours que tous et chacun puissent trouver au milieu de nous la place que Dieu lui a préparée. Tous, chacun. Oh, je vais peut-être un peu loin. Parce que je sais aussi, c'est très important, que tous ne sont pas appelés à s'établir dans cette Église. Parce que Dieu a d'autres projets et heureusement, nous bénissons le Seigneur pour toutes les assemblées. Notre désir, c'est que toutes les assemblées de Paris, de la région parisienne et de France grandissent, mais que chacun puisse trouver une place dans une assemblée. Ça, c'est ce qui est important. Donc, mon désir pour notre assemblée, ma prière, c'est que nous continuions à grandir en force, en stature. Et que chacun puisse mettre au service de l'Église et du royaume de Dieu le don que le Seigneur lui accorde dans sa grâce. Et cela toujours dans un esprit d'unité, de paix, de foi, d'amour. Mais n'oublions jamais ceci. Premièrement, être toujours attaché à la tête, Jésus. Je relis Colossiens 2, 19. Restons, ça c'est moi qui mets ce verbe pour faciliter la lecture, restons attachés au Christ, qui est le chef, qui est la tête, car c'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations, les ligaments, les jointures. Restons attachés à la tête, à notre chef, à Jésus. Frères et sœurs, je ne suis pas la tête. Vous en êtes convaincus. Moi, je suis un ouvrier, comme dit Paul. La tête, c'est Christ. Et je ne suis pas là pour prendre la place de la tête. Mais je suis un ouvrier, avec mes collègues. Et nous travaillons avec vous pour l'œuvre du royaume. Deuxièmement, quel verset important, vous pouvez le lire directement, 1 Corinthiens 12, 13, ouvrez vos Bibles et lisez-le dans vos Bibles ou dans vos applications. Deuxièmement, être toujours abreuvé par le Saint-Esprit. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous tirons nos forces du Saint-Esprit, notre vie de la présence du Saint-Esprit. Et nous ne voulons que rien ne se substitue, ne prenne le pas sur le Saint-Esprit. Et puis, troisièmement, Philippiens 3,16, au point où nous en sommes, dit-il, marchons d'un même pas. Marchons d'un même pas. En étant unis dans une même vision, une même âme, un même sentiment, une même foi, et par la grâce du Seigneur dans un même amour. Voilà donc à quoi, voilà donc un peu, pardon, cette présentation schématique, synthétique, des dons spirituels, ces trois catégories de dons, le don de construction, les dons de bonne santé et les dons d'intendance ou de fonctionnement, des dons que le Seigneur tient en réserve pour chacun d'entre nous, selon l'appel qu'il nous adresse. Il y a encore de belles choses à vivre ensemble. Seigneur, ma prière, c'est que dans cette année qui vient, nous puissions encore ensemble grandir. Grandir dans une unité de foi, une unité de connaissance. Seigneur, pour qu'ensemble nous puissions te ressembler davantage. Ressembler à Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, encore être abreuvés du même esprit. Nous ne voulons point d'autre esprit au milieu de nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, un esprit de compétition, de jalousie. Nous voulons un esprit de vie, un esprit de force, d'amour, de sagesse, ton esprit. Seigneur mon Dieu, merci parce que cette Église, tu l'as bâtie avec des ouvriers. Et dans cette Église, Seigneur mon Dieu, tu as placé des membres merveilleux, qui grandissent et qui sont, Seigneur, liés les uns aux autres et attachés à Christ. Notre désir, Seigneur, c'est que notre Église soit bien édifiée, en bonne santé et capable de te servir dans cette grande ville. Alors merci, parce que la croissance de l'Église ne sera jamais le fait d'un homme, mais elle viendra toujours d'une Église en bonne santé. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction qui repose sur nous. Merci de nous renouveler encore, mon Jésus. Nous en avons tant besoin. Je te prie pour tous ceux qui aspirent à te servir. Fortifie-les. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui servent. Conduis-les encore plus loin. Je prie pour l'exercice de tous les dons spirituels afin que nous soyons vraiment en bonne santé. Prenons soin les uns des autres dans un esprit d'amour. Seigneur, j'aime l'Église. Elle est ton épouse. Et nous voulons vraiment, Seigneur, la servir avec fidélité et passion. Dans le beau nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen, amen et amen.